Le dossier de Marie-France Martin.
Marie-France.
Bonjour, Martin.
Le père Jacques Desgrands-Jean, accusé de gestes à caractère sexuel, sera évalué en psychiatrie.
Oui, effectivement. Aujourd'hui, son dossier est revenu au palais de justice de Sherbrooke et la défense, donc son avocat qui a fait cette demande au tribunal. Je vous rappelle que Jacques Desgrands-Jean, lui, il est accusé au criminel et sur le plan civil par rapport à des gestes qui auraient été posés au collège Notre-Dame des Servites d'Ayerscliff. Ça remonte aux années 1976-1977. Et ça concerne un garçon d'âge mineur. Dans son cas, on parle d'attentat à la pudeur et de grossière indécence au moment où il enseignait à cet endroit-là. Il est aujourd'hui âgé de 86 ans, Jacques Desgrands-Jean. Et ce que dit son avocat, Maître Gérard Larocque, c'est que son client, lorsqu'il a été interrogé par les policiers pour justement ces gestes-là qu'il aurait commis, il semble qu'il y a eu des réponses incohérente, que son discours n'était pas clair. Alors lui, ce qu'il demande, c'est que son client soit évalué en psychiatrie sur son aptitude à comparaître, donc de comprendre les accusations, de comprendre le processus judiciaire. Et ça, c'est une première évaluation. Et on rappelle que ce n'est pas celle de l'article 16, parce que l'article 16, pour vous l'expliquer, c'est lorsque les gestes sont commis. Là, ça remonte à plusieurs années. Dans ce cas-ci, on veut comprendre s'il est apte à subir les procédures. Et aujourd'hui, il n'était pas présent, Jacques Desgrands-Jean. Et ce qu'a dit le ministère public, c'est qu'on va possiblement demander une contre-expertise. Donc, il y aura une évaluation. Le ministère public qui va se tourner vers un autre expert pour voir si on s'entend finalement sur les conclusions, si les conclusions se rejoignent. Donc ça a été évoqué aujourd'hui. Report au 5 septembre pour donner le temps de faire les rapports. Là.
Si, mettons, là, que les évaluations psychiatriques en viennent à la conclusion qu'il n'est pas apte, tu penses quoi?
En fait, ça s'était produit, ça pourrait se produire, Martin, pour l'autre accusé au criminel, le père Paul McCune. Mmh. Ce qu'on nous avait expliqué, c'est que maintenant, quand ça se produit, le dossier est vraiment transféré au tribunal administratif du Québec, commission d'examen des troubles mentaux. Donc, ça devient un
comme
dossier
Pascal
qui
Morin.
Est suivi tout à fait au niveau, là, à chaque fois, il y a des évaluations. Mmh. Mais dans le
mais
cas
sinon,
de
il est gardé en psychiatrie, c'est ça qu'on comprend.
Mais là, il n'est pas en psychiatrie. Dans le cas pour M. Desgrands-Jean, il habite à Ottawa. Je ne sais pas où il est au niveau de l'hébergement.
Ouais.
Ce qui avait été dit pour l'autre accusé, Paul McCune, c'est que lui, il était en résidence pour personnes âgées qui ont des problèmes possiblement cognitifs. Alors, dans son cas, lui, le deuxième accusé, il va revenir dans les prochains jours là, au palais de justice de Sherbrooke. Il y avait aussi une évaluation qui avait été demandée. Parce qu'ils sont âgés aujourd'hui,
oui,
les deux.
Non, je comprends. Mais ce que moi, j'entends, ce que les gens vont craindre, c'est qu'on sait bien qu'il n'y aura rien de bonhomme.
C'est bien certain que si les gens ont des problèmes cognitifs à l'heure actuelle et qu'on leur pose des questions sur leurs gestes et qu'ils ne sont pas capables de répondre,
c'est difficile
de porter des accusations. C'est ça.
Ça, je le saisis bien. Mais c'est qu'on va le laisser aller pareil.
En fait, c'est qu'il y a un suivi devant le tribunal administratif.
Mais
j'ai
non,
l'impression
que je comprends, mais je veux dire,
des
on l'enferme ça quelque part.
Ben, il peut demeurer, par exemple, en maison d'hébergement avec la supervision particulière ou. Tu sais, je sais pas, là, je spécule, mais.
Ça dépend de la condition
ça dépend
de la personne.
Du cas, l'évaluation. Il y a des experts qui se penchent, le psychiatre qui vient dire, ben voici, je crois que.
Ouais.
Mais
on
pour
va
la suite,
ça,
on verra.
Moi, ça. En tout cas.
Ça t'interpelle.
Oui, parce que je pense aux victimes, à leur entourage qui ont vécu des affaires épouvantables par des gestes de vieux. Ouais.
Parce qu'il y a une action civile, hein, en parallèle,
ben
Martin,
non, je
on
le
sait,
sais,
il y a des religieux, et ces deux-là en font partie, effectivement.
Ah oui. Oh, oui, mais que ils pourraient s'en tirer pareil, là. En tout cas. Bon, un spécialiste des vols et fraudes est condamné à la prison.
C'est Éric Martel, un individu qui revenait aujourd'hui devant la cour à Sherbrooke. 10 mois de prison pour avoir fraudé, volé et avoir possédé des stupéfiants. En fait, il a fraudé des commerces. Ça se passait à l'extérieur de la région, Saint-Hyacinthe, Shawinigan, entre autres. Il faisait des chèques sans fond. Il a volé aussi son ex-conjointe. On parle d'environ 1 000 $. Il avait demandé à son voisin de lui prêter son véhicule. Il dit « Je te donne 20 $ si tu me le prêtes ». Il n'est jamais revenu avec le véhicule. Il l'a carrément volé à son voisin. Il s'est fait des faux chèques avec le chéquier de son voisin, des chèques à son nom.
Non, mais
bref,
de confiance,
écoute,
là,
on parle de plusieurs petites fraudes, mais quand on les accumule, quand même, ça fait pas mal d'argent. Et parallèlement à ça, Martin, parce que ça, il les a admis, ces accusations-là, il les a admis. Aujourd'hui, ça a été condamné là, à 10 mois de prison, mais il y a encore 13 chefs d'accusation en lien avec des événements, cette fois à Sherbrooke. Ça s'est passé le 26 décembre dernier à la commission des liqueurs de Sherbrooke. Et là, je vous fais entendre la procureure de la Couronne, maître Véronique Gingras-Gauthier, qui nous parle de ces chefs d'accusation-là.
Il y a des chefs de violence, incluant voies de fait lésions et voies de fait envers deux employés de la commission des liqueurs. Il y a également des chefs parce que monsieur avait de la monnaie contrefaite. Il a utilisé de la monnaie contrefaite, il avait un faux passeport, il a utilisé un faux nom. Donc, c'est toute une série de chefs pour un même événement à la commission des liqueurs.
Et il avait aussi sur lui une arme à impulsion électrique à ce moment-là. Et il va être accusé de fraude en lien toujours avec les événements de la commission des liqueurs. Donc, ces accusations-là qui vont être déposées au cours des prochains jours, il y en a d'autres.
C'est une grosse soirée.
C'est une grosse soirée. Donc, ça revient le 20 juin prochain. Et là, dans ce cas-ci, la défense qui va faire connaître sa position là, sur ces nouvelles accusations-là, ces accusations qui restent à régler, là, finalement.
Il y avait aussi retour devant le tribunal du dossier de l'ex-candidat conservateur défait dans Brome-Missisquoi à l'élection de 2015.
Oui, Charles Poulin qui est accusé de vol avec son agente officielle aussi, Sonia Fortin. Les deux étaient au rôle du palais de justice de Sherbrooke. On parle de vol de plus de 5 000 $ et ça, c'est le chef d'accusation. On ne sait pas l'ampleur du vol comme tel, mais on sait que c'est plus de 5 000 $ dans les coffres de campagne du Parti conservateur. Donc, le vol qui se serait fait au détriment non seulement du Parti conservateur du Canada, aussi l'Association de comté de Brome-Missisquoi et un créancier de la campagne. Ah. Et Sonia Fortin, elle, son agente, est accusée de vol, mais aussi elle aurait omis de remettre le compte de campagne électorale de Charles Poulin et d'autres documents dans les mois suivant le scrutin. Donc, il n'était pas présent, ce qu'ont dit les avocats.
C'est obligatoire selon la loi électorale.
Oui, il y a des documents à remettre. Oui, oui, c'était la Couronne fédérale qui était là aujourd'hui. Ah. Et les avocates des deux, ce qu'elles ont dit, c'est que la preuve est très volumineuse dans ce dossier-là, donc elles doivent continuer de l'analyser. Et ça va revenir en septembre, donc après les vacances. Et là, le juge Conrad Chapdelaine qui a exigé la présence, cette fois-là, de Charles Poulin et de Sonia Fortin. Je vous rappelle que M. Poulin, il avait terminé quatrième en octobre 2015 dans Brome-Missisquoi. Il avait recueilli 11,5 % des voix. Et on sait que cette circonscription est détenue par le libéral Denis Paradis.
Combien de pourcentage?
11,5 % des voix.
Il n'y a pas eu 15 %, hein?
Non.
Il ne peut pas se faire rembourser ses dépenses. Il s'est dit, ben, j'ai pas eu ça, moi. C'est un peu ça.
En tout cas, c'est ce qu'on lui reproche. Ce que la preuve va révéler, ben, effectivement.
Oui. Puis là, c'est à savoir quelle somme, parce que tu me parles de plus de 5 000. C'est ça. Ça, c'est la formulation de l'accusation.
Exact.
Ouais. Puis on continue de surveiller à Granby aussi le retour devant le tribunal du père et de la belle-mère de la jeune fillette de 7 ans en quête sur remise en liberté. Et de ce que nous disait Annie Guillemette tout à l'heure, on entend des choses là assez épouvantables.
Qu'on ne peut pas dévoiler, hein, à ce stade-ci.
Il y a une ordonnance de non-publication, tu le sais, t'es au palais de justice, des enquêtes préliminaires, surtout dans des causes aussi importantes. C'est tout à fait normal qu'à l'enquête préliminaire.
Là, on est au stade de l'enquête sur remise en liberté, mais aussi, c'est la même chose.
C'est ça.
On veut protéger la preuve pour les étapes subséquentes.
Comme le procès.
Comme ça se fait, oui, oui. Ouais. C'est juste que là, les journalistes peuvent l'entendre, mais pas la révéler. Mais ça nous donne une idée.
Et il y a du badaud, là, madame.
C'est sûr.
La salle est bondée.
Oui.
À suivre.
Oui.
Merci, Marie-France. À demain. À demain, dans un instant.